La SLN présente sa feuille de route à tous ses salariés. Il s'agit de mobiliser les équipes alors que l'usine de Doniambo ne peut tourner qu'à 60% de ses capacités. Le gouvernement suit de près la situation du monde de la santé, notamment la pénurie de soignants. Claude Gambet, membre du gouvernement en charge du secteur, était ce matin notre invité. Les bourses mondiales dans le rouge, mais Donald Trump annonce qu'il ne renonce pas à augmenter les droits de douane. Une cinquantaine de pays se disent prêts à négocier avec Washington. En métropole, le Rassemblement national au milieu du guet, après la condamnation de Marine Le Pen et en attendant son procès en appel, le parti doit maintenir une dynamique présidentielle. Et puis en sport du volley sur le territoire, la sélection de Nouvelle-Calédonie va affronter celle de Wallis et Futuna. Quatre matchs amicaux sont programmés à partir de ce soir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a lancé début avril sa campagne « À vos marques, prêts, bougez », opération de sensibilisation qui invite la population à intégrer l'activité physique dans son quotidien. Et nous en parlerons avec nos invités dans le magazine citoyen juste après ce journal. Nous serons en compagnie de Caroline Valla, coach sportive et coordinatrice sport-santé à la SSNC, du docteur Bruno Calandreau, président du Conseil de l'Ordre, et de Pierre Massenet, directeur général du groupe CIPAC, qui organise également un challenge sport-santé en entreprise. Le magazine citoyen a retrouvé dès la fin de ce journal. Des rencontres inédites à la SLN. La direction a souhaité partager sa feuille de route pour 2025 avec ses 1900 salariés. Des premières réunions ont eu lieu à Koumak, Poya et Kouawa. Et aujourd'hui, ce sont les salariés de Doniambo qui sont réunis au Centre culturel du Mont d'Or, Nicolas Legrand.
Oui, une présentation et des échanges d'environ 2h30, suivi d'un temps plus informel. L'objectif pour la direction de la SLN est de fixer le cap alors que l'entreprise a traversé une crise sans précédent en 2024, avec de grandes difficultés, voire l'incapacité d'accéder à la ressource et ainsi de faire tourner son usine. Aujourd'hui, la SLN continue de perdre de l'argent chaque jour, mais la direction annonce une visibilité jusqu'à la fin de l'année, à condition toutefois d'atteindre ses objectifs. Écoutez Guillaume Curec, le directeur général de la SLN.
La SLN est dans un moment historique. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est en perte financière assez lourde. Nous avons un petit peu de visibilité devant nous, quelques mois, jusqu'à la fin d'année. Il est important de pouvoir mobiliser l'ensemble de nos salariés pour partager notre feuille de route, partager les différentes solutions que l'on peut avoir pour traverser cette crise. Crise qui touche bien sûr l'ensemble du territoire, mais qui touche tout particulièrement la SLN. Et rappeler à tout le monde qu'on a un rôle à jouer, un rôle de locomotive en tant qu'entreprise importante de la filière nickel pour aider à la reprise économique. C'est bien le but de ces rencontres, de mobiliser l'ensemble de nos équipes, essayer de garantir l'atteinte de toutes les performances que doivent être celles d'une entreprise comme la nôtre. Quand on est performant, que ce soit en sécurité, en production, en accès sur nos différents sites miniers, quand on peut redresser la teneur, on donne confiance à nos actionnaires et la confiance, c'est la base de tout soutien.
Et aujourd'hui, Doniambo tourne donc à 60% de ses capacités en raison des blocages des sites miniers de la côte Est. Tout est question en fait du mix de minerais dans les fours. La teneur en fer des massifs de la côte Ouest est trop élevée et oblige la SLN à utiliser du minerai stérile pour faire baisser cette teneur en fer et ainsi préserver ses fours. L'opération fait donc aussi baisser la teneur en nickel à 2%, ce qui n'est pas rentable. La réouverture des sites de la côte Est est donc un enjeu vital pour l'entreprise. Cela pourrait permettre de repasser à 2,35% de nickel et ainsi gagner 8 milliards de francs par an. On retrouve Guillaume Curec.
On a vraiment besoin des sites de la côte Est pour faire un mix minerai qui soit optimisé et qui nous permettra de redresser la teneur nickel. Sur Poro, sur Kouawa, nous avons beaucoup de discussions ou d'actions opérationnelles pour relancer de l'activité. C'est une visibilité qui va se compter en mois, de pouvoir réaccéder à Kouawa, réaccéder à Poro. Sur Tio, on est dans les toutes premières étapes de reprise de dialogue. Les choses vont être forcément très longues, ce ne sera pas avant la fin d'année. Alors l'accès aux sites de la côte Est est un enjeu majeur pour le retour de l'emploi, pour le retour de l'économie via la sous-traitance sur ces sites. C'est un enjeu majeur pour l'entreprise, parce que ça nous permet de remonter la teneur au niveau des fours et donc d'augmenter la puissance et donc de refaire du ferro-nickel, de relancer notre mécanique industrielle. C'est un enjeu majeur pour le pays, puisque quand on fait du chiffre d'affaires, on paye de la fiscalité et on a des retombées qui augmentent pour l'ensemble du pays.
Et autre aspect de cette feuille de route essentielle pour la SLN, selon son directeur général, l'énergie. Il faut absolument baisser les coûts pour sauver l'entreprise. Et la centrale temporaire à Costé arrive à bout d'autorisation d'exploitation alors qu'aucune solution durable n'a été actée.
La centrale à Costé temporaire est autorisée jusqu'en novembre 2025. On est en phase de demande d'une prolongation de cette autorisation temporaire. Une enquête publique va être ouverte à partir du mois de juin. En parallèle, avec l'ensemble des acteurs concernés, Prony, Enercal, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous avons adressé dernièrement un courrier au ministre d'État rappelant toutes les solutions qui existent, qui sont connues, qui ont été documentées pour mettre à disposition de la métallurgie calédonienne une énergie qui soit compétitive et le plus vite possible décarbonée.
quelle solution vous préconisez ?
Une centrale sur Nouméa de l'ordre de 160 à 200 MW, idéalement au gaz.
Et enfin, lors de ses échanges avec les salariés, la direction présente son plan de départ volontaire. Depuis les émeutes, la SLN est passée de 2200 à 1900 salariés en raison en grande partie de la fermeture de Thiot. Ce plan de départ volontaire doit permettre d'accompagner les salariés souhaitant partir à la retraite ou qui ont d'autres projets de vie afin de lancer des recrutements plus sélectifs sur les secteurs les plus essentiels pour l'entreprise.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Croyez-vous à une éclaircie du secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie ? Si vous y croyez, vous tapez 1. Si vous n'y croyez pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 65% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être choqués par la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump. Ils sont 35% à dire à l'inverse que cela les choque. Dans l'actualité économique en Calédonie, ce nouveau communiqué de la FINC pour critiquer la position du syndicat des importateurs qui s'en prend aux mesures de régulation de marché. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, écrit la FINC, qui estime que le commerce de gros et l'importation ont capté 202 milliards de pouvoir d'achat aux Calédoniens en 2022. La FINC souligne également des écarts de prix sur certains produits vendus dans des petits commerces beaucoup moins chers que dans la grande distribution. Ce ne sont pas les coûts d'approche, ni la fiscalité ou la production locale qui sont responsables de ces écarts, mais les pratiques commerciales mises en œuvre par la distribution, écrit la FINC. Le général Marquis Lecchia, qui a été suspendu à titre conservatoire des fonctions de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques qu'il occupe depuis près de 6 ans, ne souhaite pas réagir personnellement à cette affaire. Et c'est son avocat, Maître Le Pape, qui fait le point de la situation dans un communiqué publié ce matin, Elisabeth Noir.
Maître Le Pape rappelle que le général Marquis Lecchia, contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale métropolitaine, a été informé de sa suspension administrative à titre conservatoire par voie d'huissier le 21 mars dernier, avec effet immédiat. Le général Marquis Lecchia a d'abord été abasourdi, puis indigné par l'indélicatesse du procédé, affirme son avocate, mais surtout par la teneur diffamatoire et calomnieuse de cette décision. Pour son conseil, la divulgation de cette décision administrative personnelle pose en outre l'inévitable question de la source de cette fuite inadmissible au sein de la fonction publique territoriale, une fuite qui, écrit son avocat, devrait être identifié et sanctionné. Maître Le Pape tient aussi à préciser que cette suspension administrative temporaire de 4 mois n'est pas une sanction disciplinaire, mais qu'elle fait suite à 2 dénonciations, selon des sources officielles, de la part de l'adjoint du général Marquis Lecchia. Le général ne connaît pas la teneur exacte de ces dénonciations, indique son conseil, mais des recours seront déposés tout prochainement, ainsi que des plaintes auprès du procureur de la République pour les calomnies et propos diffamatoires dont il est la cible et pour en demander réparation.
Maître Le Pape rappelle aussi que le général Marquis Lecchia est un homme d'honneur, médaillé et décoré des ordres français les plus prestigieux et que sa carrière est sans tache aucune. Elle rappelle enfin ses actions de protection des Calédoniens, notamment pendant la pandémie de Covid-19 et pendant les exactions de mai 2024. Le système de soins calédonien est en crise, on le sait, et nous en avons parlé ce matin avec le membre du gouvernement en charge notamment de la santé. C'est Claude Gambet qui était en effet notre invité ce matin. Et il a insisté sur les pénuries d'effectifs qui sont surtout importantes dans le secteur infirmier. Le système de santé n'est pas encore en mode dégradé, affirme Claude Gambet, mais 95% des professionnels de santé sont concentrés dans le sud et les problèmes sont sensibles dans le nord et surtout dans les îles. Mais le membre du gouvernement en charge de la santé veut relativiser, il s'agit d'une pénurie mondiale.
La pénurie de soignants, elle est nationale, elle est mondiale, elle est internationale, etc. Pour ce qui concerne la pénurie d'infirmières, ça fait déjà un certain nombre d'années que nous étions plus ou moins au courant qu'il allait y avoir une pénurie. Les événements qui sont survenus l'année dernière ont accéléré le phénomène. Donc maintenant, je crois que l'urgence pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de retrouver un certain nombre d'infirmières. Donc c'est l'objet des missions qui ont été organisées et puis des appels à des recrutements étrangers qui sont en cours. Donc il faut savoir également que l'école d'infirmières ici, ce qu'on appelle l'IFPSS, va sortir ce mois-ci une 30aine d'infirmiers. Donc les choses vont se régler petit à petit. Peut-être pas assez rapidement, mais c'est en train de se régler.
La réponse est notamment d'augmenter les effectifs de l'école d'infirmiers pour les passer à 75 élèves. Il y a aussi le recours à des embauches à l'étranger et c'est la Belgique qui fournit le plus de candidats. Il faut dire qu'en Calédonie, il y a des problèmes d'attractivité et notamment d'insécurité.
La pénurie, elle est faite de plusieurs facteurs. Les facteurs qui échappent au gouvernement. Hein. La question de la sécurité, ça nous dépasse. Hein. Donc, moi, à mon niveau, en tant que membre du gouvernement en charge des affaires coutumières, c'est un travail que je suis en train de faire également avec les autorités coutumières. Mais il n'y a pas que la question de la sécurité physique. Il y a également ces problématiques de blocage qui ne facilitent pas l'attractivité. Après, il y a d'autres leviers qui sont à notre niveau, comme par exemple les revalorisations de grilles salariales, etc. Les accompagnements logistiques comme les prises en charge du billet d'avion ou l'octroi de logements, etc. C'est des choses qui sont à notre niveau, qui sont en train d'être travaillées.
Mais Claude Gambet est persuadé que les choses vont se réguler d'ici quelques mois. Il rappelle que des avantages sont octroyés pour essayer d'attirer du personnel médical sur le territoire.
Pour ce qui concerne l'octroi de logements, etc., ça c'est immédiat, puisque nous avons déjà évoqué ce sujet le 3 mars, dans notre première réunion avec les employeurs. Donc les provinces s'y emploient, certains établissements de santé également. Les prises en charge de billets d'avion sont effectifs, donc dans les campagnes de recrutement, c'est mis en exergue. Après, pour ce qui concerne la revalorisation de ces grilles salariales, alors quand on touche aux grilles salariales, il faut savoir que le corps de santé, ça part des soignants jusqu'aux praticiens hospitaliers, etc., avec des impacts non négligeables, ce sont des impacts en milliards, hein. Sachant que nous avons un budget qui est très contraint. Donc ce sont des travaux que nous avons lancés, qui sont en cours. Donc il y a des mesures qui peuvent être prises par arrêté, donc ça c'est très rapide, et puis d'autres qui nécessitent l'avis des instances, parce que lorsque nous prenons des mesures, il faut savoir qu'il y a des impacts au niveau des provinces, il y a des impacts au niveau des hôpitaux, etc. Donc il faut que les hôpitaux soient en mesure d'honorer ces dépenses.
Dans le secteur privé, on relève le départ de spécialistes. Le membre du gouvernement reconnaît qu'il y a des secteurs en tension. Mais désormais, une loi du pays permet aux médecins étrangers d'exercer en Nouvelle-Calédonie des embauches contrôlées, assure Claude Gambet.
C'est une commission d'autorisation d'exercice médical qui se réunit une fois par mois. Donc les recrutements ont commencé au début de l'année dernière. Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, on en a recruté 25. Ce sont des médecins de spécialités très fortes, hein, comme la néphrologie, le gynéco-obstétricien, neurochirurgien, etc. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. La vigilance qu'il va falloir avoir, c'est faire attention, parce que quand on fait appel à l'international, la Nouvelle-Calédonie étant très petite, on risque d'être vite saturé. Donc il faut faire attention. Alors la plupart des médecins qui sont recrutés ici, ce sont des médecins qui exercent actuellement ou qui ont exercé dans l'Hexagone ou en Europe.
Il faut aussi faire un travail sur les salaires. Dans le secteur libéral, le payeur est la CAFAT, mais elle agit en fonction des moyens dont elle dispose. Une enveloppe de 9,2 milliards lui a déjà été accordée au travers du prêt de l'État et cette enveloppe va être portée à près de 12 milliards pour lui donner plus de marge de manœuvre, annonce Claude Gambet. Il insiste aussi sur l'importance de la gouvernance avec l'adoption de l'OCEAM, l'objectif calédonien d'évolution de dépenses d'assurance maladie, qui fixe une enveloppe maximale de dépenses. Il a été adopté en commission de la santé et doit encore être examiné par le Congrès. Le membre du gouvernement insiste aussi sur la nécessité d'une autorité de régulation indépendante pour réguler le système par profession et par établissement de santé. Une interview de Claude Gambet qui est disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Avant de marquer une première pause dans ce journal, cette dernière information concernant l'actualité sur le territoire pour vous rappeler que l'aérodrome de La Roche à Marais est toujours bloqué. Les coutumiers protestent depuis hier contre la hausse des prix et le projet de déménagement d'Aircal vers Tontouta, un mouvement qui devrait prendre fin ce soir. Il est 11h44, une première pause. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde, toujours marquée par les conséquences de l'annonce de Donald Trump d'augmenter les droits de douane pour tous les pays qui entrent aux États-Unis.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Ce n'est pas encore le chaos boursier, mais l'annonce de la hausse des droits de douane par Donald Trump plonge les marchés dans le doute. La plupart des places financières ont terminé dans le rouge, moins 4,78% pour le CAC 40 à Paris. Milan, Francfort et Londres ont aussi enregistré un fort recul, recul qui a même atteint 13% à la bourse de Hong Kong, chahutée elle aussi comme toutes les places boursières asiatiques. Cette très forte nervosité des marchés a de quoi inquiéter, mais pour autant, pas question de faire marche arrière, a redit le président américain Donald Trump.
On n'envisage pas ça. On a de nombreux pays qui viennent négocier avec nous et ce seront des accords équitables. Parfois, ils paieront des taxes substantielles, mais ce seront des deals équitables.
Une cinquantaine de pays ont en effet déjà contacté Washington pour négocier et tous les pays sont les bienvenus, a redit le président américain, sauf la Chine, avec laquelle Donald Trump a fermé la porte. Si la Chine riposte, il prévoit même d'augmenter encore les droits de douane sur les produits chinois jusqu'à 104%. L'Union européenne souhaite aussi négocier avec les USA et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose l'annulation de tous les droits de douane sur les biens industriels échangés entre l'Union européenne et les USA.
L'Europe est prête à négocier avec les États-Unis. En effet, nous avons proposé des droits de douane nuls pour les produits industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux, parce que l'Europe est toujours prête pour une bonne affaire. Nous la gardons sur la table.
En attendant que les négociations se mettent en route, les marchés financiers, on l'a vu, sont très fortement en baisse. La seule bonne nouvelle, c'est que le Dow Jones se maintient et c'est peut-être le signe d'un prochain rebond, estime l'économiste Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.
On va être encore prudent puisqu'il faudra voir l'ouverture des marchés en Asie, et notamment parce que Donald Trump menace de mettre en place de nouvelles mesures de rétorsion à l'égard de la Chine. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que c'est peut-être un premier signe de ce qu'on appelle en bourse la capitulation, c'est-à-dire à un certain stade, la baisse va se terminer et vous aurez probablement un rebond qui va survenir. Donc on est probablement à la fin un peu de cette phase de panique, ou en tout cas c'est ce que considère le marché. On s'est plutôt optimiste à l'instant T. Je ne vais pas être trop optimiste, mais on a des signaux qui sont effectivement qui vont dans le bon sens.
La question est de savoir quels sont ces signaux qui vont dans le bon sens.
Il y a plusieurs éléments. Vous avez eu des échos qui ont été ensuite démentis, mais malgré tout, ça montre un signal important du côté de la Maison-Blanche sur le fait qu'à l'égard de certains pays, on pourrait mettre en pause notamment la mise en place des tarifs douaniers, donc avoir un délai de 90 jours ou 30 jours pour négocier. Vous avez aussi très concrètement des choses qui surviennent, c'est-à-dire que parmi tous les pays qui ont été concernés sur les tarifs douaniers, vous en avez une cinquantaine aujourd'hui qui ont ouvert la porte à des négociations. Donc c'est plutôt un aspect qui est assez positif. L'Union européenne va réagir, mais on voit au niveau de la Commission européenne qu'on souhaite pas avoir un bras de fer à tout prix, une guerre commerciale vivace. Donc il y a aussi des éléments qui permettent un peu de se rassurer. Et puis à un certain stade, c'est la vie des marchés, c'est-à-dire que vous avez des gros mouvements de baisse, mais à un certain stade, le marché finit par rebondir. Et il suffirait d'une petite bonne nouvelle sur la question commerciale, ou peut-être de baisse d'impôts aux États-Unis, puisque c'est le sujet aussi qui survient dans le débat au niveau du budget, pour que le marché rebondisse très nettement.
Christopher Dembick est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. En métropole, le ministre de la Justice poursuit son projet d'incarcérer les 200 plus gros narcotrafiquants dans des prisons de haute sécurité. L'une de ces prisons retenues est celle de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Pour y effectuer les travaux nécessaires, elle va être vidée provisoirement de ses détenus et les premiers transferts sont imminents. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Même une question d'heure pour le premier convoi, me souffle une source proche du dossier. Plusieurs départs échelonnés répartis sur plusieurs semaines. Écoutez, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Et il y aura une petite dizaine de convois qui vont être organisés, donc dans une petite dizaine de lieux, qui sont des prisons pour peine et qui ne sont pas aujourd'hui en surpopulation carcérale et qui donc peuvent accueillir les détenus que nous sortons, à quelques exceptions près, de la prison de Vendin.
Des cas extrêmes, par exemple Redouane Faye, déjà évadé à deux reprises, ou encore le djihadiste Salah Abdeslam. Il n'en reste pas moins que les autres détenus transférés restent très dangereux. D'ailleurs, certains reviendront ensuite à Vendin-le-Vieil parmi les 100 plus gros narcotrafiquants sélectionnés. Alors pour encadrer ces transferts, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, est mobilisée. L'objectif, on le rappelle, vider la prison pour finaliser les travaux débutés le mois dernier. Une prison qui doit accueillir les 100 plus gros narcobandits d'ici le 31 juillet prochain.
Le trafic de drogue qui a fait une nouvelle victime à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Un jeune homme de 19 ans a été tué de deux balles dans la tête à proximité d'un point de deal qui avait pourtant été démantelé. Les faits se sont produits en plein jour. Antoine Guérin est le préfet délégué à la sécurité dans le Rhône.
On ne laissera pas un nouveau point de deal se constituer. Donc on est déterminés, nous allons mettre des forces de police, vous les voyez derrière moi, des CRS, qui vont saturer l'espace public de façon à ce qu'on puisse garantir la sécurité des parents qui vont aller déposer leurs enfants à l'école et qui doivent pouvoir le faire en toute sécurité. J'invite chacun à réfléchir à ce que c'est que le trafic de drogue, ce n'est pas anodin. Les consommateurs ont une responsabilité dans ce qui s'est passé et nous serons déterminés à lutter contre ce trafic de drogue.
L'actualité en métropole, c'est aussi l'adoption définitive au Parlement d'un texte qui concerne les élections municipales. Il étend en effet le scrutin de liste paritaire à toutes les communes de moins de 1000 habitants. Texte qui sera effectif dès les prochaines élections municipales prévues au premier trimestre 2026. Et puis au chapitre politique, le Rassemblement national est au milieu du guet. Après la condamnation de Marine Le Pen et en attendant son procès en appel, le parti doit gérer une situation complexe. Alors quels sont ses objectifs pour les prochains mois ? Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Tout simplement entretenir la flamme, c'est le mot d'ordre du Rassemblement national. Après une manifestation dont le succès en demi-teinte a néanmoins redonné du courage selon certains élus, Marine Le Pen sait que le plus dur reste à faire, conserver sa crédibilité de candidate d'une part, maintenir la ferveur militante de l'autre. On ne peut surtout pas s'endormir, il faut continuer à entretenir le sentiment d'injustice, explique un élu qui veut croire à une mobilisation dans la durée. Autrement dit, pas de changement majeur de stratégie, bien au contraire, le parti veut transmettre un message, celui d'une victoire judiciaire à long terme de la chef de file des députés RN, au risque de devoir attendre l'appel en 2026 pour lancer une campagne officielle. Alors d'ici là, aucun plan B n'est à prévoir. Voir. Dans les rangs du RN, on préfère dénoncer l'acharnement d'un système aux abois plutôt qu'évoquer le scénario d'une présidentielle sans Marine Le Pen. Et si les cadres du parti s'accordent à dire que le duo Le Pen-Bardella reste un ticket gagnant, les rôles fixés n'ont pas bougé, à lui Matignon, mais à elle l'Élysée.
Il sera 11h52 dans quelques secondes. La dernière pause de ce journal, on ouvre ensuite notre page consacrée à l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés, faisons-les rêver.
Les jeudis de l'économie avec la BCI.
Parce que l'économie touche à tous les aspects de notre vie quotidienne. Parce qu'elle évolue sans cesse. Parce qu'elle est incontournable. Parce qu'elle est au cœur des choix d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est LE magazine dont Radio Rythme Bleu ne pouvait pas faire l'économie.
Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à suivre chaque jeudi dans Infomag à midi avec la BCI.
BCI, ensemble, voir plus loin.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le tennis avec la suite du premier tour du Masters 1000 de Monte Carlo, Léo Fichou.
Trois Français sont déjà qualifiés pour le deuxième tour. On les rappelle, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Alexandre Muller. Et la nuit prochaine pour nous, Arthur Fils, tête de série numéro 12, Hugo Humbert et Corentin Moutet, issus lui des qualifications, vont tenter de les rejoindre. Arthur Fils sera opposé à Talon Grigspour. Hugo Humbert jouera contre l'Australien Alexei Popirine. Et enfin, Corentin Moutet affrontera Thomas Martin et Echeverry. On notera deux surprises lors du premier tour de ce tournoi de Monaco. Les éliminations des têtes de série numéro 11 et 16 du tournoi. L'Américain Ben Shelton et le Canadien Félix Auger-Aliassime.
Du football avec deux rendez-vous. Parlons du premier qui a lieu en Europe.
Oui, d'abord on suivra ces deux premiers quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera demain matin à 6h pour nous. Arsenal recevra le Real Madrid et l'Inter de Milan ira défier le Bayern Munich. Jeudi, ce sera au tour du PSG d'affronter Aston Villa et au Barça d'accueillir Dortmund. Et puis après, on parlera aussi de la Ligue des Champions ici, dans la région, avec demain après-midi les demi-finales de la O-League. Ça se passe aux îles Salomon. Le représentant calédonien Tigasport jouera à 16h sa place en finale contre les Papous d'Ekari United. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était en 2023. Déjà en O-League, mais en phase de poule. Score final 1-0 pour Tiga. Dans l'autre demi-finale, les favoris Auckland City défieront les Vanuatu Difira Blackbird.
Et puis toujours à propos du football, notez que la sélection U20 de Nouvelle-Calédonie continue sa longue préparation à la Coupe du Monde. Après avoir perdu 2-1 contre le RC Point-Dimier samedi dernier, les jeunes Cagous vont affronter l'AS Magenta ce soir au stade Numadelet. Et puis toujours sur le territoire, parlons volley maintenant avec une série de matchs amicaux entre les sélections de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna.
Oui, les sélections masculines mais aussi féminines vont s'affronter à 4 reprises d'ici la fin de la semaine. Des matchs amicaux organisés pour préparer les mini-jeux du Pacifique au Palau. Ce sera en juin et en juillet prochain, mais aussi les Jeux du Pacifique prévus en Polynésie française en 2027. Moïse Kalemou, président de la Ligue calédonienne de volleyball.
Et des rencontres prévues toute la semaine. Le but un petit peu, c'était de préparer les mini-jeux. Donc maintenant, on est plus sur une phase pour préparer 2027. Des objectifs bien fixes, donc voir un peu nos joueurs et joueuses, comment ils évoluent, leurs conditions physiques et par rapport à des situations de compétition. Il y a aussi en parallèle des échanges de pratiques entre les techniciens et aussi par rapport aux dirigeants, voir un petit peu le développement du volleyball au sein de la région avec nos amis de Wallis et Futuna.
Malheureusement, cette année, avec les restrictions budgétaires, les incertitudes planent toujours sur la délégation qui partira au mini-jeu du Pacifique. On retrouve Moïse Kalemou.
La situation, voilà, on est en difficulté. Il faut qu'on reste solidaire à des décisions. On doit faire confiance à des décisions du gouvernement par rapport au budget qui a été alloué. Les décisions aussi par rapport au CTOS, le choix de prendre les disciplines. Donc, on est compréhensible des décisions qui ont été prises. Hein. Donc, du coup, nous, pour notre discipline volleyball, pour l'instant, sur les équipes qu'on propose, ce sera le beach, ce sera l'équipe de défi. Potentiellement, voilà, on attend encore une réponse du CTOS par rapport à l'équipe des garçons pour partir.
Les premières rencontres amicales auront lieu ce soir dès 17h à Nouméa. Ce sera à la salle Omnisport de Lansvata. La sélection calédonienne affrontera la sélection de Wallis et Futuna. Demain, le rendez-vous est donné au Mont d'Or. Puis jeudi, ce sera du côté de Dumbéa. Et enfin, vendredi, rendez-vous à l'arène du sud de Païta.
Merci Léo. C'est la fin de ce journal à 11h56.